Bonjour à tous, frères et sœurs. Comme nous l'avons vu lors de précédents messages ou dans de précédents messages, Dieu nous a créés à son image, selon sa propre ressemblance. Et la Bible déclare en outre qu'il veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Pour nous préparer à cette gloire et à notre accès dans sa famille spirituelle, il a institué la famille humaine. Et Dieu s'attend à ce que les chrétiens réussissent dans leur vie de famille. Selon les statistiques récentes ou des statistiques récentes, et il y en a un certain nombre, mais toutes se rejoignent essentiellement, on dénombre aujourd'hui en France plus de 123 000 divorces. L'infidélité est la première cause des divorces. Mais pas la seule. Chaque année, 10 couples mariés sur 1000 divorcent. Vous allez me dire, ça ne fait que 1%. Mais il faut noter qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui se marient. De nos jours, on préfère la cohabitation. Début 2011, en France métropolitaine, 32 millions de personnes majeures déclaraient être en couple, et 72% d'entre elles étant mariées, et partageant la même résidence que leur conjoint, de sexe différent, mais 7 millions vivaient en union libre, c'est-à-dire en cohabitation, ou sans être mariés. La France fait aujourd'hui partie des pays où la cohabitation hors mariage est la plus répandue. Les couples qui se marient directement sont de plus en plus rares. Et les naissances au sein de couples non mariés de plus en plus nombreuses, si bien que désormais plus de la moitié des enfants naissent hors mariage. Près de 45% des mariages, soit presque la moitié des unions conjugales, se soldent par un divorce. Les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans et les femmes divorcées 44 ans. Conséquence, plus de 1,6 million d'enfants vivent aujourd'hui dans des familles recomposées, comme on les appelle. Et plus de 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leur nouveau conjoint. Près de 8% des familles françaises sont des familles recomposées. Aujourd'hui, plus de la moitié, 55% environ, des divorces sont des divorces par consentement mutuel. Mais cela excuse-t-il le problème? L'infidélité est à l'origine d'un tiers des demandes de divorce. L'égoïsme du partenaire, c'est-à-dire le manque d'affection, de soutien, etc., est à l'origine de 22% des demandes de divorce. Le mauvais caractère est à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. Les comportements abusifs, jalousie notamment, sont à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. Les désaccords concernant l'avenir, les objectifs poursuivis, maison, enfant, animal domestique, sont à l'origine de près de 15% des demandes de divorce. L'incompatibilité est à l'origine de plus de 10% des demandes de divorce. L'argent et le travail, perte d'emploi, dette, etc., sont à l'origine de plus de 10% de ces demandes de divorce. Les beaux-parents sont cités comme responsables d'un peu plus de 10% des demandes de divorce. En France, en 2014, chaque jour, 338 divorces ont été prononcés. Dans 3 cas sur 4, le demandeur du divorce était la femme. Les statistiques pour la Suisse, la Belgique et le Québec sont quasiment analogues. Et j'ai le sentiment qu'il en va pratiquement de même pour les autres pays francophones. Tel est le monde où nous vivons. Comment sommes-nous arrivés là? Il est clair que quasiment la moitié des couples mariés ne réussissent pas leur vie de famille. Dans quelle mesure Ces statistiques nous incluent-elles? Frères et sœurs, comment se porte votre famille? Avez-vous une bonne vie de famille? Votre petit royaume se porte-t-il bien? Nous pouvons tous apporter quelques améliorations, n'est-ce pas? Les raisons citées dans les échecs des familles en Occident sont généralement, comme nous l'avons vu, premièrement, l'infidélité, deuxièmement, l'égoïsme du partenaire, troisièmement, le mauvais caractère, quatrièmement, les comportements abusifs, cinquièmement, les désaccords concernant l'avenir, les objectifs poursuivis, sixièmement, l'incompatibilité, septièmement, l'argent et le travail, et huitièmement, les beaux-parents. J'ai trouvé ces statistiques plutôt pertinentes et au moins révélatrices. Dans toute famille heureuse et équilibrée, on dénote deux réussites fondamentales. La réussite du couple, premièrement, et deuxièmement, la réussite dans l'éducation des enfants. Ne nous faisons pas d'illusions, si nous réussissons dans ces deux domaines clés, nous avons obligatoirement une vie familiale réussie. Nous reviendrons sur ces éléments dans nos futurs messages, mais nous couvrirons ensemble aujourd'hui plusieurs règles fondamentales garantissant notre réussite dans notre vie de famille. Paul a fait allusion dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, à au moins six, pourrait-on dire, des éléments de base de la vie familiale. L'infidélité, l'égoïsme du partenaire, mais ne peut-on blâmer que l'autre? Le mauvais caractère, sommes-nous aussi, nous, concernés? Les comportements abusifs, en sommes-nous des auteurs? Les désaccords concernant l'avenir, les objectifs poursuivis, ce qui comprend les divergences en matière de religion et de questions morales, de valeurs morales, et l'incompatibilité. Puisse notre Père Céleste nous équiper de sa sagesse et d'humilité pour accepter ce que Paul nous dit. Reportons-nous ensemble, si vous le voulez bien, à 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 7, et j'ai pensé aujourd'hui qu'il serait bon de lire une bonne partie de ce passage ici, parce qu'il y a des informations importantes à propos du sujet dont nous traitons aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 1. Et Paul débute par ceci, il dit, « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit », Paul fait visiblement allusion ici à des questions qu'on lui a posées et qui ne sont pas reproduites dans la Bible. Je pense, Paul donne ici son avis, qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. À nouveau, c'est son avis. Toutefois, pour éviter la débauche, du fait de notre nature et de nos besoins affectifs, que Paul, pour sa part, au moment où il écrivit ces choses, ne semblait pas avoir outre mesure, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. En d'autres termes, que le mari et la femme s'acquittent de leur devoir d'époux. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Dieu veut que nous apprenions à donner. Ne vous privez point l'un de l'autre. En d'autres termes, ne vous privez pas d'affection, mais faites preuve de tendresse, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Et il précise quelque chose qui est intéressant ici. Il dit, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Paul reconnaît ici qu'il dit cela par condescendance, ayant apparemment moins de besoins affectifs que la plupart des gens. Étant probablement veuf quand il écrivit ces choses, tous les membres du Sanhédrin auxquels il appartenait avant étant mariés, et il précise qu'il n'en fait pas un ordre. Verset 7, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Paul n'avait apparemment pas d'attache conjugale et pouvait se consacrer davantage au Seigneur lorsqu'il écrivit ces choses. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon, qu'il aurait bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et lorsqu'il est question de brûler, il est évidemment question de convoitise. Paul indique par ses propos qu'il est satisfait de l'état dans lequel il se trouve, n'ayant apparemment plus de femme. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Il donne ici l'avis de Dieu et il se démarque quelque peu. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, et il donne ici son avis à nouveau, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, parce qu'il a consenti à habiter avec elle, il n'y a pas de conflit. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement dit, ou autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Incidemment, Paul ici dit que c'est son avis. Dieu lui a inspiré d'ajouter cette précision. Et nous devons faire preuve de sagesse, car il précise encore au verset 40, et je cite, « Et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. » Toute l'Écriture étant inspirée de Dieu, de Timothée 3,16, cela doit nous donner à réfléchir. Aidés du Saint-Esprit, nous devons faire la part de son opinion et celle de la volonté divine. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés en ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Lors de notre conversion, quand Dieu nous appelle, si notre conjoint ou conjointe refuse de continuer à vivre avec nous du fait de nos convictions, il ou elle peut se séparer. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Il est évidemment difficile d'inverser la circoncision physique. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision physique, bien entendu, sous-entendu, n'est rien, et l'incirconcision physique, sous-entendu, n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave ou un serviteur, cela peut être traduit par serviteur aussi, de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Et Paul de nouveau nous dit qu'il s'agit ici de son avis, ce qu'il est inspiré de préciser. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Et Paul pensait que Christ reviendrait de son vivant. Pratiquement 2000 ans se sont écoulés depuis. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, notamment des besoins sexuels. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, ce que Dieu lui a laissé croire à l'époque, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. S'inquiéter des choses du Seigneur semble avoir été ce qui revêtait, pour Paul, la plus haute importance. S'inquiéter des choses du Seigneur. Et celui qui s'est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Notez que Paul ne critique pas le mariage, il sait que Dieu a dit, entre autres, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et un peu plus loin, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Paul savait que Dieu avait dit cela dans Genèse 2 et les versets 18, puis 24 et 25. Il y a de même, poursuit-il, toujours dans 1 Corinthiens 7, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Verset 34, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Il revient sur ce thème, sur l'importance de ce thème, s'inquiéter des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est intéressant ce petit bout de phrase. Propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Paul revient ici sur le thème de la nécessité de notre attachement au Seigneur. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Les temps et les coutumes ont évidemment changé depuis. Il est rare de nos jours que le père choisisse un mari pour sa fille. Cela se fait encore dans certains pays, mais en Occident, par exemple, ce n'est plus du tout le cas. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur, autrement dit, avec un homme converti. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et Paul précise encore qu'il s'agit ici aussi de son avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Autrement dit, son avis n'est pas celui d'un non-converti, pourrait-on dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce que Paul dit ici. Puisse Dieu nous donner la sagesse de comprendre ce que Paul nous dit ici. Paul nous révèle ici plusieurs secrets de la réussite familiale. La réussite de la vie de famille passe premièrement par la réussite de la vie du couple. Quand il y a infidélité, égoïsme, que l'un ou deux des conjoints ont un mauvais caractère, qu'il y a des comportements abusifs, comme de mauvais traitements ou de la violence physique ou verbale, des désaccords concernant l'avenir, les objectifs poursuivis, ce qui comprend les divergences en matière de religion et de valeurs morales, Et lorsqu'il y a incompatibilité, les enfants qui découlent de telles unions sont assez souvent dysfonctionnels. Ils deviennent assez souvent des délinquants, de mauvais citoyens et, dans certains cas, même des criminels. Effectuons, pour commencer, quelques rappels rapides que je me contenterai de citer sans toutefois vous demander de vous reporter au passage évoqué. Que déclare la Bible ? À propos du couple, Christ a dit qu'au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10, versets 6 et 9. Salomon a dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Ecclésiaste, chapitre 9 et le verset 9. Paul a écrit « Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Distinction notoire. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 3, puis 8 à 12. Les conjoints doivent se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 21. Il est bien précisé « dans la crainte de Christ ». Nous savons que les maris doivent aimer leur femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, versets 21, 25, 28, 33. Nous savons qu'il est dit au mari, « Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. » Pourquoi Paul dit-il cela dans Colossiens 3, 19 ? C'est que, sans doute, nous avons, nous les hommes, un problème dans ce domaine. Que nous avons du mal à aimer nos femmes, et à ne pas nous aigrir contre elles. C'est ce que dit l'Écriture. Nous savons aussi que le mariage doit être honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Il s'agit ici d'une métaphore, il est plutôt question de souillure morale. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, 4. Pierre nous dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. » 1 Pierre 3, 7. Il est écrit que trouver une femme est une grâce qu'un homme obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Pour revenir sur l'élément du mauvais caractère d'un des conjoints mentionné dans les statistiques, la Bible nous dit que mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbe 21, 19. Que mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Proverbe 25, 24. Il semble que Salomon en ait fait l'expérience avec l'une ou plusieurs de ses nombreuses femmes ou concubines. Évidemment, être irritable et querelleur n'est pas l'apanage de certaines femmes. Cela décrit aussi certains hommes. Quand Paul écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient », il précise que cette soumission doit se faire dans le Seigneur. Colossiens 3, 18. Il a aussi écrit que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ouh, que ces paroles sont difficiles à accepter par bien des gens aujourd'hui. Il s'agit ici de la vie de Dieu, et non pas de ce que les gens pensent. À nous de déterminer ce que nous allons faire, obéir à Dieu ou obéir aux hommes ou aux femmes. Cela, il en est question dans 1 Timothée, chapitre 2, et les versets 9 à 15, bien entendu. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. 1 Timothée 3, 11. Toutes ces choses, Paul le savait, que Dieu avait écrit ces choses, ou avait enseigné ces choses, et nous le savons aussi, nous avons lu ces passages des quantités de fois. Paul n'était pas contre le mariage, il a en effet écrit « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » 1 Timothée chapitre 5 et le verset 14. Il dit aussi « Femmes, ayez la parure intérieure et cachée, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Que ces paroles sont controversées aujourd'hui, et cela explique en grande partie pourquoi si peu de couples ont une bonne vie de famille. Mais qu'en est-il de nous, qu'en est-il de vous, frères et sœurs? À quoi ressemble votre petit royaume, votre famille? À quoi ressemble votre vie familiale? Est-elle une réussite? C'est important aux yeux de Dieu. Paul a mis l'accent sur l'importance de la réussite de la vie familiale. Reportons-nous à 1 Timothée chapitre 3 et le verset 5. Nous nous reporterons à ce passage. 1 Timothée chapitre 3 et le verset 5. Timothée 3, 5. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Bon, il est question qu'il parle ici, des responsables dans l'Église, mais chaque membre se trouve aussi dans une situation analogue. Si nous ne pouvons pas diriger proprement notre maison, comment est-ce que nous pouvons être efficaces dans l'Église, même si nous sommes que de simples membres? Un jour, nous ne serons plus de simples membres. Dieu est en train de nous entraîner, de nous former pour devenir des rois et des sacrificateurs, des hauts dignitaires dans son royaume. Paul répète cette exhortation deux chapitres plus loin pour bien en souligner l'importance. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8, nous allons maintenant au chapitre 5 et au verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Bon, il est certain qu'il s'adresse ici essentiellement aux hommes, aux chefs de famille, c'est clair. À nouveau, messieurs, à quoi ressemble votre royaume, votre petit royaume, votre famille? Frères et sœurs, nous vivons dans un monde dans lequel, comme l'a écrit Ésaïe, mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ces principes, nous les connaissons. Cela, incidemment, c'est dans Ésaïe chapitre 3 et le verset 12. Ces principes, nous les connaissons donc. Il est même possible que vous les ayez mémorisés, parce que nous revenons souvent sur ces passages. Mais nous contenter de les connaître sans les pratiquer est futile. Comme l'indiquent plusieurs enquêtes, les principaux obstacles à notre pleine réussite dans notre vie de famille sont généralement l'infidélité. Réfléchissons bien. L'infidélité, ce n'est pas seulement l'infidélité physique. Nous pouvons être fidèles physiquement, mais dans notre esprit, dans nos pensées, ne pas être fidèles. Réfléchissons à cela. L'égoïsme. L'égoïsme, qui de nous n'est pas égoïste un peu? Voilà des raisons citées par le monde. Des raisons qui sont citées comme échec à la réussite de la vie de famille. Et vous et moi, nous sommes encore un peu au moins égoïstes, n'est-ce pas? Et que dire du mauvais caractère, cette troisième raison, le mauvais caractère? Est-ce que nous avons tous un bon caractère? Nous aimerions le penser, mais est-ce la réalité? Et le mauvais caractère, il est facile de dire que l'autre a un mauvais caractère, mais est-ce que nous n'avons pas, nous, personnellement, individuellement, un mauvais caractère? Oh, pas nécessairement tout le temps, mais dans quelle mesure? Combien de fois? Combien de fois par jour, combien de fois par semaine, etc., etc. Et que dire des comportements abusifs? Bon, généralement, dans les familles chrétiennes, il y a moins de cela, mais il y en a aussi quand même. Vous pouvez trop corriger vos enfants, vous pouvez être abusif physiquement, mais aussi verbalement, et démolir vos enfants par la manière dont vous les traitez. C'est possible. Que dire des désaccords concernant l'avenir et les objectifs poursuivis? Bon, eh bien cela, ce sont souvent des causes de divorce, n'est-ce pas? C'est de cela que nous parlons souvent, du moins d'après les statistiques ici, ce sont des causes principales de divorce, des désaccords concernant l'avenir, les objectifs poursuivis. Et il est certain que lorsqu'on est dans l'Église, on voit les choses totalement différentes, peu, la manière dont le monde voit les choses. Nous avons des valeurs qui sont totalement différentes de celles du monde, si on peut appeler le monde, ce qu'il y a dans le monde des valeurs de nos jours, n'est-ce pas? Que dire de l'incompatibilité? Quelquefois, nous nous marions et nous sommes réellement incompatibles. Et moi, je pense à la génération de nos parents, ceux qui ont vécu pendant la guerre, ou pendant même les deux dernières guerres. Souvent, ils se mariaient en disant « bon, ben, tu me plais, je te plais, c'est bon, on y va, c'est tout ». Mais il n'y avait pas réellement compatibilité, en d'autres termes, les deux n'avaient pas réellement la même optique sur la vie ou les mêmes valeurs, les mêmes rêves, les mêmes désirs. Et pourtant, ils se sont mariés, mais ils étaient incompatibles. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont incompatibles. Et de ce fait, ils ne peuvent pas vivre ensemble, c'est très difficile pour eux de vivre ensemble. Il faut au moins que vous vous intéressiez à ce que l'autre fait. Si vous êtes musicien, mais que l'autre n'a aucune envie d'écouter votre musique, ou n'est même pas intéressé dans la musique, par exemple, là, ça pose un problème. Pas nécessairement que nous ayons à avoir tous les mêmes goûts, mais qu'au moins il y a un certain intérêt, un certain respect pour ce que l'autre est, pour ses préférences et ses talents, etc., etc. Souvent aujourd'hui, on se marie et on est totalement incompatible. On se marie simplement parce qu'on est attiré physiquement et sexuellement, mais c'est là où s'arrêtent les choses, bien souvent. Et c'est désastreux. Que dire de l'argent et du travail? Quand l'argent commence à manquer, souvent cela cause des problèmes et cela provoque des conflits dans le mariage. Les femmes, surtout, ont besoin de stabilité. Et lorsque le mari ne travaille pas ou ne travaille pas assez ou est fainéant ou est alcoolique ou autre, bien là, ça cause des problèmes. L'argent et le travail, tout cela est important. Et c'est donc une des causes du divorce aujourd'hui. Quand je lis ces choses, est-ce que nous nous posons la question nous-mêmes, est-ce que cela m'affecte personnellement? Est-ce qu'il y a quelques-uns de ces éléments qui sont des problèmes pour moi dans mon foyer? Est-ce que certains de ces éléments sont un problème pour la réussite de ma vie familiale, de notre vie familiale, de notre petit royaume? Et que dire des beaux-parents? C'est intéressant, on cite ici, les statistiques citent les beaux-parents. Les beaux-parents qui ont quelquefois tendance à s'immiscer dans les affaires du couple. Et ça, c'est désastreux et c'est difficile. Il est difficile de ne pas s'immiscer. Souvent, on a envie de donner conseil aux plus jeunes. Mais il est sage, quand on est des beaux-parents, de savoir être discret et de laisser au jeune couple le soin de prendre ses propres décisions et de ne pas s'immiscer. C'est difficile. Il est intéressant ici de noter que souvent, les beaux-parents sont des problèmes, sont des causes pour des divorces. À nouveau, posons-nous la question, nous sommes chrétiens, mais est-ce que nous respectons, par exemple, si nous sommes plus âgés, si nous sommes des beaux-parents, est-ce que nous respectons la vie du jeune couple qu'ont nos enfants, qui représentent nos enfants? Où nous situons-nous dans ces domaines? La réussite de notre vie familiale est un vaste sujet, mais respectons-nous les principes de base? Une famille heureuse et équilibrée et qui plaît à Dieu est une famille dans laquelle mari et femme font leur part et éduquent leurs enfants. Alors nous allons passer maintenant à ce deuxième aspect dont je parlais tout à l'heure. Pour qu'il y ait réussite au niveau familial, il faut qu'il y ait réussite au niveau du couple. Et réussite au niveau de l'éducation des enfants. Si ces deux choses, si ces deux aspects sont une réussite, eh bien, votre vie familiale est bien réussie. Il y a de fortes chances. Proverbe 22:6, c'est un proverbe qu'on cite souvent, qu'on a cité souvent. Proverbe 22:6, je voudrais que nous nous y reportions, parce que c'est un proverbe clé et qu'on a souvent malheureusement mal compris et cela a causé un certain nombre de problèmes, de frustration au fil des années. Proverbe chapitre 22 et le verset 12, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et vous et moi, et beaucoup de parents, nous avons essayé de faire justement et précisément cela, c'est-à-dire d'inculquer à nos enfants la voie divine pendant leur enfance, et nous nous disions, il y a ici une promesse que si je fais cela, eh bien automatiquement mes enfants vont rester dans l'Église. La question que nous devons nous poser est de savoir si c'est réellement ce qui est écrit dans l'original, si c'est réellement l'intention de ce proverbe. C'est cela la clé. Comme je dis, on a cité souvent ce verset et apparemment on l'a bien mal compris. Dans la Bible de la Bible annotée de Godet, ce verset est traduit par « Forme le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera devenu vieux, il n'en dévira pas ». Ok, c'est un peu différent déjà. Dans la Bible en français courant, donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Alors, c'est intéressant, c'est différent aussi, n'est-ce pas? Dans la Bible de Darby, élève le jeune garçon selon la règle de sa voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas, pas ou point. Dans la Bible de Jérusalem, forme le jeune homme au début de sa carrière, devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Dans la version Martin, instruit le jeune enfant à l'entrée de sa voie. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera point. Dans la nouvelle Bible Second, initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Dans la version Parole de vie 2000, Dieu donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Dans la Second 21e siècle, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Dans la version Tob, donne de bonnes habitudes au jeune homme en début de carrière. Même devenu vieux, il ne s'en départira pas. Il est intéressant de noter ce qu'on peut dire sur un site en ligne appelé Bible Hub, Bible Hub, www.bible.com, sur lequel on peut trouver diverses traductions anglaises. Et on remarque notamment que dans la Young's Literal Translation, la traduction littérale de Young, ce verset est rendu comme suit, et je cite, et notez bien, « Instruit le jeune à propos de sa voix, ou en lui expliquant sa voix et ses conséquences. » Et même quand il deviendra vieux, il ne s'en écartera pas. Fascinant, n'est-ce pas? C'est pas ce que nous avions compris de par le passé, dans bien des cas. Ce site propose également un commentaire du Pulpit Commentary. Commentaire de la chaire, C-H-A-I-R-E, sous-entendu de la chaire du prédicateur, où l'on ne fait pas nécessairement bonne chaire, C-H-A-I-R. Et où l'on devrait parler des choses de l'esprit plutôt que des plaisirs de la chair. C-H-A-I-R. Le Pulpit Commentary déclare à propos de Proverbe 22:6, et je cite, « Instruit l'enfant selon la voie qu'il devrait suivre. » Le mot traduit par « instruit », l'hébreu « shanak », signifie premièrement « mettre quelque chose dans la bouche ». Sous-entendu qu'on y goûte. En d'autres termes, cela veut dire « donne une formation élémentaire ». Équipe, dans le sens d'équiper. Forme. Dans l'original hébreu, il est question littéralement d'éduquer l'enfant en fonction de sa voix. Pas question de la voix divine ici, mais la fonction de sa voix. Sa voix peut vouloir dire deux choses, ou bien cela s'applique à son appel ultérieur, à sa situation future, ou bien il est question de son caractère, de sa manière innée à lui de faire les choses, de ses aptitudes. Il est plus logique de voir dans cette maxime une injonction à tenir compte dans l'éducation de l'enfant de sa nature, de ses facultés, de ses aptitudes, de son tempérament. Si, quand il est jeune, un enfant est ainsi éduqué, quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et ainsi, son éducation, en tenant compte de ses particularités, de ses manies, de son comportement, portera des fruits pendant toute sa vie, et cela deviendra une seconde nature. Il fera cela instinctivement, et cela lui restera. Pour résumer, la meilleure traduction de Proverbe 22:6 serait la suivante. Éduque l'enfant en tenant compte de ses tendances, de ses prédispositions, de ses habitudes, de ses manies, de son caractère et de sa personnalité. Explique-lui où mène sa voie et ce qu'il doit changer. Et quand il sera vieux, il continuera à se conformer à l'éducation qu'il a reçue. C'est en effet l'intention de ce verset. Je répète, la meilleure traduction de ce verset serait « Éduque l'enfant en tenant compte de ses tendances, de ses prédispositions, de ses habitudes, de ses manies, de son caractère et de sa personnalité. Explique-lui où mène sa voie et ce qu'il doit changer, et quand il sera vieux, il continuera à se conformer à l'éducation qu'il a reçue. » C'est en effet là l'intention de ce verset. Ce verset ne dit pas, comme on l'a souvent cru, « Instruis l'enfant selon la loi divine, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il n'est pas ici question de la loi divine, mais de la voie que doit suivre l'enfant, laquelle est en grande partie basée sur son caractère et sur sa personnalité. Dieu nous a laissés libres de choisir. Il souhaite évidemment que nous fassions le bon choix, tout au moins, éventuellement, ou en fin de compte, mais il est possible que nous prenions des chemins détournés pour y arriver. Et c'est ce qu'on fait, ils font encore certains de nos jeunes ou de nos enfants qui, après avoir été avec nous dans l'Église, ont décidé à un moment donné d'aller dans une autre direction. Bon, tout n'est pas nécessairement perdu. Dieu seul sait s'ils étaient profondément engagés ou non. Bref, voilà un verset qui ne déclare pas ce que nous avons souvent cru. Une chose est certaine, Dieu veut que nous enseignions à nos enfants la bonne voie, et que nous les aidions dans la voie dans laquelle ils doivent marcher. Puis-je me permettre de vous donner quelques petits conseils? Premièrement, aidez vos enfants à vous connaître. Aidez vos enfants à vous connaître. Soyez ouverts, vous les parents. Reconnaissez vos faiblesses, devant vos enfants, admettez vos faiblesses. Vous verrez que cela porte des fruits excellents. Quand nous faisons quand nous commettons une erreur, nous autres les parents, nous devons l'admettre et dire « Oh, excuse-moi, mais là, je me suis trompé. » Et vous savez, il y a des parents qui ne feraient jamais cela. Qui ne feraient jamais cela, qui n'admettraient jamais qu'ils ont eu tort. C'est une grosse erreur, une grossière erreur. Vous les parents, admettez quand vous avez tort. Et vous serez surpris des résultats que cela donnera. Cela montrera à vos enfants que nous sommes tous humains et nous ne sommes pas parfaits. Et que nous avons l'humilité nécessaire de le reconnaître. De reconnaître quand nous n'avons pas raison. J'ai pratiqué ce principe personnellement dans ma vie. Et je le fais encore. Quand j'ai tort et que je me rends compte que j'ai tort, je vais le dire à mes enfants après. Et je me dis, je m'en excuse, je m'excuse, mais j'ai eu tort. Deuxièmement, deuxième conseil, un enfant est une personne. Un enfant est une personne, un enfant de Dieu en puissance, et il a le droit à un certain respect. Ne le méprisez pas. Ce n'est pas nécessairement un problème dans l'Église, mais il arrive que nous ayons des parents qui méprisent leurs enfants, qui n'ont pas de respect pour leurs enfants. Évitez cela à tout prix. Dialoguez beaucoup avec vos enfants. Ayez si possible vos repas ensemble, au moins le dîner. Je sais, avec notre vie moderne, ce n'est pas toujours facile, mais passez du temps ensemble. Apprenez à vous connaître. Aidez vos enfants à vous connaître. C'est très important pour réussir sa vie familiale. Passez du temps à observer vos enfants et passez du temps avec eux. Souvenez-vous que votre exemple compte plus que n'importe quel sermon ou leçon de morale. Votre exemple. Vous savez, on se surprend des années plus tard, on se surprend à faire des choses qu'on disait, mais je me rappelle que papa ou maman faisait ça et moi à l'époque je ne voulais pas avoir cette manie ou cette habitude. Et on se surprend quand on est plus âgé de refaire exactement la même chose. Comme quoi, l'exemple est très important. Corrigez, mais encouragez aussi. Quand vos enfants échouent, empressez-les ou empressez-vous de les encourager. Corrigez-les, mais encouragez-les. Ne leur dites jamais qu'ils ne sont que des bons à rien et qu'ils ne feront jamais de rien de bon dans la vie. Ne leur dites jamais cela. Jamais, j'insiste. Les principes, c'est bien, mais il faut surtout avoir de l'affection et de l'amour. Si vous dites « cela ne se fait pas », ayez une bonne explication biblique pour prouver votre point. Et quand vos enfants vous demandent « pourquoi », évitez de répondre « parce que je suis ton père ou ta mère et que tu dois m'obéir ». Bon, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour dire cela, mais ça ne doit pas être une habitude, qu'à chaque fois que nous disons quelque chose, tu m'obéis parce que je suis ton père ou ta mère. À nouveau, il y a un moment pour tout, il y a certainement un moment pour utiliser cette réponse, mais ce n'est pas la plus futée, ce n'est pas la meilleure des réponses, et il ne faut l'utiliser qu'à des moments très rares, que très rarement. Et ne jouez pas les militaires, ne jouez pas les militaires, l'Église ou la famille n'est pas l'armée. J'espère que vous me comprenez. Quand on étudie de près la vie des êtres humains, on s'aperçoit qu'un élément majeur détermine leur statut dans la vie, l'éducation qu'ils ont reçue. Et directement lié à cette éducation, on dénote la présence ou l'absence dans cette éducation d'un autre élément majeur, l'affection. L'affection. Quelqu'un qui manque d'affection étant jeune s'en ressent toute sa vie. Des études ont été effectuées sur des bébés délaissés par leur mère. Souvent, ces bébés privés d'affection meurent dans les premières semaines de leur existence. Il n'est pas rare de nos jours que de jeunes mamans manquent d'affection naturelle, comme disait Paul, qu'elles manquent d'instinct maternel. L'affection est la démonstration de l'amour. La réussite de toute vie familiale passe par de nombreuses preuves d'affection, tant chez les époux que pour les enfants. Êtes-vous un être affectueux? Plusieurs enquêtes ont démontré que la délinquance, la criminalité et les perversions sont intimement liées à l'absence d'affection et de mauvais modèles parentaux chez les la présence de mauvais modèles parentaux chez les individus dysfonctionnels. Et notre ministère l'a amplement démontré, d'ailleurs, au fil des années. Dans le monde à venir, sous le règne de Christ, il y aura beaucoup d'amour et d'affection, de bienveillance, de tendresse, de charité. Ces qualités sont terriblement absentes dans notre monde actuel. Quand Christ fut baptisé, une voix se fit entendre des cieux déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3:17. Ce que Pierre a repris en disant « Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » 2 Pierre 1:17. Parlant du temps de la fin, Dieu, par la bouche du prophète Malachie, a annoncé la venue d'Élie. Nous ignorons à ce stade si nous devons attendre un individu ou si ce verset est symbolique d'une œuvre. Une chose est certaine, il y a dans ces versets l'expression d'un blâme et une exhortation à resserrer les liens familiaux. Voici ce qui est écrit dans ce passage, et je le citerai par faute de temps, Malachie 4 et les versets 5 à 6. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Frères et sœurs, il est question ici d'affection. En tant qu'Église, nous avons une œuvre à accomplir en ce sens, mais aussi en tant que famille. Nos familles sont-elles des foyers d'affection? Paul a lui-même parlé de cette expression primordiale de l'amour. Il a écrit dans Romains 12, 10, je cite, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » En parlant de Tite, il a écrit dans 2 Corinthiens 7, 15, que ce dernier éprouvait pour les Corinthiens un redoublement d'affection. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2, 8, Paul écrivit aux membres, « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Ne parlait-il pas alors de joindre le geste à la parole, d'exprimer leur amour par un certain comportement? Nous avons eu dans l'Église, au fil des années, des gens qui étaient bien trop froids, bien trop flegmatiques. Paul répète un peu plus loin, de 1 Thessaloniciens 5, 13, « Ayez pour eux, vos ministres, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Pierre a dit dans sa première épître, « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. » 1 Pierre 5, 14. Le moment est venu pour nous de redoubler d'affection dans un monde qui se refroidit de jour en jour, qui est glacial du fait de l'iniquité, comme cela est écrit dans Matthieu 24. L'iniquité s'étant accrue, la charité du plus grand nombre se refroidit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous, frères et sœurs. L'affection est un résultat, un fruit, qui est produit par l'application de bons principes et en fait de la loi divine. L'affection ne peut pas être artificiellement créée, c'est un cri du cœur. C'est pour cela qu'il importe à tout prix que nous nous équipions de ce qui produit l'affection. Je voudrais terminer par quelques proverbes. Il y a des perles dans le livre des Proverbes. Reportons-nous à Proverbes 2, 21. Proverbes chapitre 2 et le verset 21. À nouveau, il s'agit pour nous de réussir à tout prix cette vie familiale. Cela révèle, c'est très révélateur, cela révèle notre caractère, cela révèle beaucoup de choses à Dieu, à notre propos, à notre sujet. Qui sommes-nous? Comment se porte notre petit royaume? Je veux dire notre famille. Avons-nous une bonne vie familiale? Proverbes chapitre 2, verset 21. Les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Ce principe général jette, entre autres, les bases de la réussite familiale. Il s'applique aussi aux femmes, comme c'est le cas de beaucoup de proverbes de la plupart des écrits bibliques à l'intention des responsables et notamment des chefs de famille. Quelques pages plus loin, Proverbes 16, 21, Proverbes chapitre 16 et le verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. J'aime cette expression, la douceur des lèvres. Je crois pouvoir dire que dans la douceur des lèvres, il y a de l'affection. À propos de l'éducation des enfants, Proverbes 29, verset 17, Proverbes chapitre 29 et le verset 17. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand on éduque bien ses enfants, il y a au foyer de l'affection, des délices. Proverbe 3, revenons en arrière un peu, Proverbe chapitre 3 et le verset 1. Proverbe chapitre 3 et le verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et il s'agit ici de la sagesse personnifiée qui parle et qui nous donne des conseils. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Ici question de mon fils, mais cela s'applique à nous tous. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 10, verset 1. Proverbe chapitre 10 et le verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Proverbe 13, verset 1. Proverbe chapitre 13 et le verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Si au départ nous faisons ce qui est nécessaire, si nous éduquons nos enfants, nous n'avons pas des problèmes à mesure que les années passent après. Il faut faire le nécessaire dès le départ, pas attendre que les enfants aient un certain âge, pas les laisser grandir tout seuls. Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Il est question de réussite familiale dans ces versets. Et avec cette gloire, il y a beaucoup d'affection aussi. Proverbe 20, verset 11. Proverbe chapitre 20, verset 11. Je vous disais il y a un instant, il ne faut pas attendre longtemps, il faut démarrer dès le départ, dès le début, dès le plus tendre, la plus tendre enfance, dès le plus jeune âge. C'est là qu'il faut débuter l'éducation de ses enfants. Car, Proverbe 20, 11, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Très jeune, il montre par son attitude, par ses manies, par ce qu'il fait, quel va être son caractère. Et le métier d'éducateur débute dès le berceau, pourrait-on dire. Proverbe 28, 7. Proverbe 28 et le verset 7. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Proverbe 3, 12. Proverbe chapitre 3 et le verset 12. Un principe très important ici, qui s'applique aussi bien à nous qu'à nos enfants. L'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Je voudrais que nous nous reportions maintenant à Galates chapitre 6 et le verset 7. Galates chapitre 6 et le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si nous éduquons mal nos enfants, que nous ne passons pas assez de temps avec eux et ne leur exprimons pas notre affection, leur vie en sera profondément affectée, et la nôtre aussi par voie de conséquence. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Reportons-nous pour finir à 1 Timothée 5:8 que nous avons déjà lu, mais histoire de nous rappeler notre responsabilité, car il est question à nouveau aujourd'hui de réussir sa vie familiale. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Notre Père Céleste veut que nous participions à l'œuvre de Malachie, qui a dit qu'il nous enverra Élie le prophète, pour amener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Nous participons à cette œuvre, frères et sœurs. Le moment est venu d'évaluer honnêtement comment se porte notre petit royaume. Je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis que Dieu vous guide. Au revoir. Et à bientôt.